Salut la famille, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Alors je vous préviens d'entrée, il y a du bruit de ouf parce qu'on est en période de carnaval au Brésil. Donc ne paniquez pas si vous entendez des bruits de fond et tout, si quelqu'un hurle ou si un chien se met à aboyer de ouf. En fait, pour la petite anecdote, pour les gens qui suivent mes aventures au Brésil, en fait j'aurais dû vlogger ce truc parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Attendez, je fais juste un test son pour vérifier si le son est quand même pas trop dégueulasse. Et non, ça va, le son, il est pas trop dégueulasse. Et en fait, je me dis, s'ils font du bruit, je vais faire du bruit aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, c'est trop marrant parce que quand je suis arrivé dans ce pays, genre, j'étais tellement déboussolé parce que je parle pas la langue, etc. Et aussi parce que, enfin, faut dire la vérité, je pense que les Brésiliens qui m'écoutent savent que c'est vrai. C'est l'été, c'est une ville qui est, comment dirais-je, côtière, elle est proche de la mer, c'est très balnéaire. Donc en fait, clairement, genre, tout tourne autour du tourisme, en fait. Le cash, il rentre ici. Bahia, c'est un des états les plus pauvres, en fait, du Brésil. Quand le cash, il rentre ici, vous pouvez être sûr qu'ils vont traire la vache jusqu'à... Putain, je suis vraiment désolé. En fait, son chien, il se met à hurler comme ça, genre, une fois par jour. Et il fallait que ce soit maintenant à 8 heures, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Et en plus, j'ai tellement de trucs à dire, mais franchement, je vais arrêter parce que, voilà, faut pas déconner non plus. Mais j'ai trop de trucs à dire, enfin, c'est quand même un pays de dingue. Bref, en tout cas, la synthèse et la conclusion de l'anecdote que j'ai citée avant, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé, j'étais hyper déboussolé, j'avais vachement peur, et en fait, je prenais tout à cœur. Hein. Moi, faut pas oublier, je suis lion, mais j'ai aussi ma Mercure en cancer, et ma Vénus en cancer, et ma Chariclo en cancer. Donc, je suis très sensible, voilà. Je me trouve pas, comment dirais-je, susceptible, parce que la mère vierge avec laquelle j'ai grandi, enfin, tu peux pas être susceptible, donc ça, merci maman. Mais en tout cas, je suis sensible. Et en fait, juste le fait qu'on m'escroque ou qu'on me vole de l'argent, ou que, enfin, voilà, que les gens mentent, ou que, enfin, tous les petits trucs qu'on fait, en fait, aux touristes et tout, parce qu'il faut bien faire tourner l'économie, qu'on vous vend un truc qui est beaucoup plus cher que ce que ça n'est, etc. Ben, en fait, je le prenais vachement à cœur au début. Je me disais, waouh, c'est tellement... Enfin, moi, en plus, je me suis baptisé il n'y a pas longtemps, donc j'ai une vision très chrétienne, manichéenne, pardon, du monde, quoi. Genre, tu fais ce truc-là, c'est que you're a bad person, quoi. Genre, c'est... Bon, là, je me suis calmé, mais justement, le Brésil m'a aidé à me calmer, genre, à avoir une vision beaucoup plus large et tout, des choses. Donc, non, franchement, merci, le Brésil. Et donc, l'anecdote, c'est que je viens de passer d'un appart à... C'est pas moi qui l'ai réservé. Mais je viens de passer d'un appart de presque 100 mètres carrés, genre au bord de la mer, trop bien et tout. Et en fait, la nana, elle a fait quoi, ma landlord? Elle m'a tège, parce que moi, j'avais signé le deal sur le côté, j'ai négocié moi-même. Parce qu'en fait, ils escroquent trop les touristes. Enfin, genre, j'ai des potes américains ici... Pour moi, ce que je paye à 300 peanuts, ils le payent à 1000 balles le mois, quoi. Enfin, c'est... Bref. C'est pour ça que je voulais devenir agent. C'est ça, c'est ma Mars en balance. Genre, s'il y a un contrat en langue romane, enfin, voilà, un truc latin où je peux comprendre et tout, tu vas pas réussir à me rouler. Ça peut être en portugais, mon frère. Genre, je sais lire, je sais traduire, je vais négocier. Et donc, j'ai négocié ce truc et la nana, elle a signé, elle m'a dit oui, oui et tout. Donc, j'ai payé mon avance, j'ai fait mes trucs et tout. Et en fait, deux jours avant, parce qu'en fait, ça englobe une période du carnaval, elle m'a tège, en fait, du logement en me disant qu'elle avait fait une réservation sur Airbnb. Et je me suis retrouvé, donc elle m'a dit, ouais, t'inquiète, je te file l'appartement du bas et tout. Et en fait, l'appartement du bas, il y avait déjà quelqu'un dedans. Donc là, je me retrouve en coloc surprise avec un mec, enfin bref. Et dans un espèce de truc, je souhaite ça à personne. Si je prends une photo, vous allez pleurer, genre. C'est une espèce de pièce vide, de genre, je sais pas, même pas 5 mètres carrés. Je pense que ça doit faire genre 3 mètres carrés, le truc. C'est même pas légal, je pense, mais bon, bienvenue au Brésil. Et j'ai toutes mes affaires dedans, parce qu'il faut que je puisse fermer à clé, parce que toutes les portes sont ouvertes, enfin... Et je me dis, mais c'est la fin de mon séjour, et jusqu'au bout, en fait, je suis dans les épreuves. Et franchement, au début, c'était dur. Mais là, j'ai une espèce de vague d'optimisme et de je relativise vachement. Je me dis, à la fin de la journée, c'est le carnaval. C'est une période qui est très compliquée pour trouver un logement. J'ai un toit sur ma tête. Je suis pas en train de dormir dehors. Je suis pas en galère. Donc, gloire à Dieu. Et voilà. Mais il m'aura bien fallu 3 mois de galère comme ça pour pouvoir discuter comme ça aujourd'hui. Mais bon, au moins, vous pouvez voir juste en écoutant les épisodes une transformation jupitérienne, activation maison 9, pleine puissance, quoi. Là, je suis vraiment dans ma maison 9. Anyways, Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un lien d'âme qui est extrêmement puissant, d'un archétype de relation qui est extrêmement puissant, et pour moi, c'est même le plus puissant. C'est celui de la tribu d'âme, en fait. Et je vais lui donner un twist qui est important pour moi parce que je suis chrétien et qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui nous viennent beaucoup des cultures amérindiennes, américaines, etc. Parce qu'ils ont une vision et une notion du collectif qui est très particulière. Et je le sais parce que j'ai eu la chance d'avoir un pote pendant beaucoup de temps, presque 10 ans. Là, on s'est un peu perdu de vue parce qu'on a fait des choix de vie différents, mais le mec, je me souviens, il me racontait des anecdotes de lui et de son père. Alors lui, il est guyanais, mais il a vraiment la majorité de sa famille qui est vraiment amérindienne, quoi. C'est pas genre l'arrière-grand-mère, c'est genre vraiment son père, c'est un indien. Ils ont un village indien trop chelou en Guyane, apparemment, où il y a que des amérindiens. Voilà, ils font des cérémonies et tout, ça fait trop peur. Et voilà, et en fait, il m'a raconté une anecdote où genre, son père a découvert qu'il était... homosexuel. Ça me fait trop bizarre de dire homosexuel, ça fait vraiment médical, genre. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont nés avant les années 70 qui m'écoutent, donc pour vous, c'est normal, genre, un homosexuel. Bref, son père a découvert, en fait, que le mec aimait d'autres gars, et il a pété un câble. Et en fait, j'oublierai jamais comment il m'a décrit la chose. Le mec l'a réveillé pendant la nuit. Et en fait, le truc, c'est qu'il a été initié à plein de trucs amérindiens et tout machin. Et en fait, quand il lui parlait et qu'il lui secouait les épaules, comme un prunier, en mode « Tu peux pas me faire ça, t'es mon seul garçon, là, là, là. » Enfin, voilà, vous connaissez ces discours-là. Le mec, en fait, il changeait de visage. À chaque fois qu'il disait une phrase, il changeait de visage. Et en fait, après, apparemment, on lui a dit à mon pote qu'il était en transe et tout ce soir-là. Et qu'il avait beaucoup bu et qu'il avait complètement perdu le contrôle des esprits qui lui avaient été assignés pendant son initiation. Genre, ça m'a tellement fait peur. Et je vous avoue que quand il m'a raconté ça, le gars, je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à prendre nos distances parce que cette histoire m'a fait trop peur, sa mère. Genre, bref, tout ça pour vous dire que moi, c'est pas de ce genre de tribu d'âme. C'est pas de ce genre de tribu d'âme-là dont j'ai envie de vous parler. J'ai plus envie de vous parler de la vision un peu plus poétique, un peu plus chrétienne, on va dire, quand même, hein, sans prétention aucune. Je sais que les chrétiens ont beaucoup fait de mal à ces populations-là. En plus, on miskina. Mais voilà, je vais donner un twist qui est différent. Pour moi, en fait, les âmes, quand elles se manifestent ici, elles viennent avec des contrats. Voilà. Et parmi ces contrats, on a, pour moi, les différents archétypes de relations que je vous ai cités. Et je n'ai pas encore fini la série parce qu'il y a du bonus. Dans le bonus, on va parler de la relation, de l'archétype relationnel entre la prostituée et le client. Hein, faut pas croire, c'est un archétype aussi. On n'a pas besoin d'être physiquement une prostituée pour être dans une position de prostituée. On n'a pas besoin physiquement d'être un client d'une prostituée pour rentrer dans cet archétype-là. C'est pour ça que c'est un archétype. Mais il y a beaucoup de relations tout autour de vous, vos propres parents, qui montrent des signes de l'archétype de la relation entre le client et la prostituée. On revient sur le fil principal. Pour moi, la tribu d'âme, donc c'est parmi tous les contrats qui existent, un contrat, un méga contrat, on appelle ça, chez les agents. C'est un méga deal qui vous unit avec plein d'âmes en même temps. Et je suis hyper ému juste rien que de vous en parler parce que j'ai vraiment l'impression d'être en train de channel quelque chose là parce que j'ai vraiment pas préparé l'épisode comme ça. Je suis pas du tout en train de lire mes notes. Mais donc ça fait trop peur, ça me fait penser au père de mon pote. Le mec, il insultait. Il lui fait des insultes homophobes et en fait, en même temps, son visage, il changeait. À chaque fois que le mec lui parlait, il avait un visage différent. Et lui aussi, ça l'a traumatisé. Mais du coup, je pense qu'il y a eu un truc de trauma bonding où ça m'a traumatisé aussi parce que je voyais vraiment le truc arriver, quoi. Ça faisait trop peur. Anyways. Et donc, voilà, c'est un espèce de méga deal qui vous unit à plein d'âmes en même temps. Et pourquoi ça m'émeut ? Ça m'émeut parce que je pense que les grands événements historiques qui jalonnent, en fait, l'histoire de l'humanité sont faits grâce à ces méga deals, en fait, d'âmes qui décident à un moment donné de faire une révolution, de faire un flash mob, de faire un flyer pour l'entreprise. Voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment varié, en fait, la nature de ces contrats-là. Je pense que c'est pas tout le temps des trucs en mode métaverse, sauvant le monde, etc. Mais je pense que beaucoup de ces contrats, c'est ça, parce que le monde de l'âme, est beaucoup plus élevé en termes de vibration que le monde des hommes. Donc voilà, pour l'âme, beaucoup de choses que l'âme considère comme, je sais pas, peut-être triviales, c'est extrêmement important pour nous, parce que c'est toujours plus profond, c'est toujours plus proche de Dieu en fait. Donc ouais, pour moi, ce genre de contrat-là, il se manifeste à des moments historiques, soit de l'histoire de l'humanité, soit de votre histoire personnelle, où un grand nombre d'âmes est nécessaire pour pouvoir accomplir une vision. Et donc là, je vous redirige vers un bouquin qu'on a lu ensemble dans le club de lecture qui parle des égrégores, puisque c'est de ça dont on parle aussi. Comment ces âmes ont des agendas politiques et comment elles se reconnaissent entre elles et elles décident de collaborer entre elles à un objectif qui est beaucoup plus grand, quoi. Et ça, c'est vraiment beau. Enfin, là, on est complètement dans une vision, je pense, ésotérique de la réalité, mais moi, je trouve ça tellement beau. C'est vraiment la beauté de la création de Dieu, quoi. Comment on peut s'émanciper, s'autodéterminer et se dire, voilà, on va entreprendre ça, on va essayer de réaliser ça, mais on ne pourra pas y arriver seul, mais ensemble, peut-être qu'on pourra y arriver. Typiquement, je pense que le mouvement Flower Power et tout, qui a accompagné le mouvement New Age et tout le mouvement pacifiste anti-guerre et tout du Vietnam aux États-Unis, je pense que c'est un contrat d'âme. Le festival de Woodstock, je pense que c'est un contrat d'âme. En tout cas, les premières éditions de Woodstock, je pense que c'était un contrat d'âme. Cette espèce de nightlife, Studio 54 et tout à New York, je pense que c'était un espèce de contrat d'âme, de tribu d'âme. C'est comment des âmes qui sont très similaires, en positif comme en négatif, décident de se rejoindre entre elles pour accomplir quelque chose de plus grand. Et en vrai, on aurait pu directement mettre l'égrégore dans le titre, mais je trouve que c'est un concept qui est tellement occulte. Enfin, c'est pas un truc qui parle encore au grand nombre, mais je sens que dans les prochaines années, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées justement sur les égrégores au grand nombre. Et ouais, pour moi, l'archétype relationnel qu'un individu entretient avec sa tribu d'âme, c'est ça. Maintenant, de manière un peu moins spectaculaire, on va dire, la tribu d'âme, ça peut être vos amis, ça peut être quelques proches qui sont autour de vous. Parfois, si vous avez de la chance, votre famille ou des membres de votre famille font partie de votre tribu d'âme. Mais ce n'est pas toujours le cas et j'irais même jusqu'à dire que c'est rare. Mais voilà, pour moi, je vois vraiment le côté... Bah, je suis lion, hein, donc lion, Jupiter en Sagittaire, donc je vois le côté un peu grandiose de ça. Et tout de suite, je pense à des révolutions, je pense à des grands événements historiques, mais même des concerts. Hein. Il y a des concerts vraiment iconiques de certains artistes. Et je pense qu'il y a des contrats d'âme qui sont signés pour que toutes ces âmes-là se retrouvent à ce moment-là, je ne sais pas moi, pour se retrouver, pour partager ensemble des valeurs. Enfin, voilà, je suis une âme, mais je ne suis pas que ça, donc je ne peux pas savoir ce qu'elle pense, etc. Mais ouais, je trouve ça extrêmement beau. Pour moi, c'est évidemment le plus bel archétype relationnel qui existe. C'est, c'est un archétype que vous allez retrouver dans la relation, par exemple, que certains artistes ont avec leurs fans, hein. Moi, je me considère comme un artiste, mais je me considère surtout comme un MC, maître de cérémonie. Alors, c'est vraiment mon dada de créer des communautés sur Internet. C'est un pouvoir que j'ai vraiment, voilà, je sans prétention aucune, les yeux fermés. Par contre, la condition, soleil en lion, c'est qu'il faut que ça m'anime, il faut que ça me passionne. Et je pense que vous pouvez l'entendre au son de ma voix, ce sont des sujets qui me passionnent. Et du coup, c'est facile pour moi de rassembler des gens autour de la table pour qu'on puisse parler de tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le type de relation qui unit un artiste et ses fans. C'est ce contrat d'âme, c'est ce truc de la relation entre l'individu et sa tribu d'âme. Et en fait, je me suis un peu spoilé, mais ouais, je pense que les fans des artistes, que ce soit de la musique ou autre chose, hein, c'est des âmes qui reconnaissent en l'artiste une partie d'eux-mêmes, en fait. Et c'est pour ça que le lien, il est aussi fort. Et il y a autant de dévotion aussi. Parce que je pense que dans toutes ces histoires de liens d'âme entre un individu et un collectif, je pense qu'il y a forcément une forme de hiérarchie. Hein. C'est là où je diffère un petit peu du modèle des tribus d'âme à l'indienne et tout, parce que c'est vachement horizontal et tout. Moi, je suis plus chrétien, donc pour moi, il y a une hiérarchie. Je pense qu'il y a des fonctions. Il y a certaines choses que certaines âmes font, que d'autres font pas, etc. Et c'est horrible. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un très bel archétype relationnel. Enfin, ça s'était calmé, j'ai relancé le truc et ça reprend. Pour moi, c'est un très bel archétype relationnel, c'est vraiment le plus beau, moi c'est celui qui me porte le plus loin, à la fois en tant qu'admirateur, on va dire, ou en tout cas supporteur, et en tant que leader aussi, puisque je ne suis pas en train de dire que les 20 000 personnes qui écoutent le podcast font partie de ma famille d'âme, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast de Mythologie Astrale qui font partie de ma tribu d'âme, clairement, ça c'est sûr. Et je pense qu'on s'est reconnus, et je pense qu'on s'est reconnus en plus dans des facettes de nos personnalités qui ne sont pas forcément les plus lumineuses. Et ça, c'est fort, quoi. Et ça, c'est vraiment le pouvoir d'Internet. Donc voilà. Mais à l'envers, j'ai été fan quand j'étais plus jeune. J'étais un très gros fan d'une nana qui s'appelle Nicki Minaj. Et c'est l'une des plus belles histoires de ma vie. J'ai adoré accompagner cette nana, la supporter, la soutenir. Enfin, il y avait vraiment ce truc de. Il y a un truc vraiment. Il y a certains artistes, en fait. Dans l'industrie de la musique particulièrement, mais ailleurs aussi. Et en fait, on dit qu'ils ont un suivi de culte. C'est-à-dire que leurs fans, ce n'est pas juste des fans qui sont engagés avec leur contenu, ils ont ce que les Anglais appellent un cult following. Et il suffit de penser à de grandes icônes et vous verrez qu'elles ont vraiment un cult following. On leur voue un culte. John Lennon, les Beatles, Michael Jackson. Beyoncé aussi, elle a un cult following. Et en fait, il se trouve que Nicki Minaj, c'est une des dernières à être arrivée à avoir un cult following. Justin Bieber aussi, il avait un cult following. Où vraiment, les nanas. Quand je dis cult following, c'est pas juste payer les places de concert. Parce que les gens, ils aiment trop faire genre, ils sont tous des gros fans et tout, machin. Vous n'êtes pas des vrais fans. Voilà. Les vrais fans, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais ils font des dingueries vraiment pour l'artiste, quoi. Et je dis pas forcément que dans la madness et la folie de tout ça. Ça rend ces personnes-là plus spirituelles, mais comme je vous ai dit, les liens d'âme et les liens de tribu d'âme, c'est positif comme négatif. Voilà. Donc voilà. Et bizarrement, c'est des femmes qui ont des. Enfin, c'est pas toujours des femmes d'ailleurs, mais en tout cas, celles dont je parle, c'est des femmes. Je pense à Beyoncé, Nicki Minaj. Beyoncé, elle a Pluton en maison 1, et ça l'aide à contrôler les masses, à contrôler les gens, à faire que les gens font ce qu'elle veut qu'ils fassent, etc. C'est puissant Pluton en maison 1 et en balance. Et Nicki Minaj, elle a son dessus dans Capricorne, et je suis sûr que dans une autre vie, c'était une espèce de générale de guerre mongole, une stratégiste de je ne sais pas quoi, parce que comment elle a réussi à mettre à l'amende autant de mecs dans une industrie qui vraiment, enfin, n'est pas paramétrée pour que les femmes puissent prospérer en sécurité dedans, quoi. Donc il y a un côté un peu David et Goliath, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais en tout cas, je sais que le lien d'âme qui existe entre elle et ses fans est extrêmement fort. Et voilà, j'incite pas les gens à se faire du mal et tout, mais moi j'ai vu des dingueries hein, en étant fan de cette nana. Les fans attaquent les gens, les fans font fuiter les adresses des gens, ils persécutent les gens. Enfin, il y a vraiment ce truc violent juste pour la protéger, quoi. Et donc, on peut dire ce qu'on veut, qu'on soit chrétien, bouddhiste, musulman, quand on voit ça, on est obligé d'admettre que la personne, elle est littéralement protégée. Enfin, c'est-à-dire que qu'elle se marie ou pas, qu'elle ait des enfants ou pas. Il y a des millions de personnes dans le monde qui sont prêtes à se prendre une balle pour qu'elles ne se prennent pas une balle. Enfin, ça n'a aucun sens quand on y pense. Mais justement, parce que ça n'a aucun sens et parce qu'il y a cette dimension qui est très irrationnelle, qu'on retrouve beaucoup dans le langage de l'âme, bah, je pense que c'est des liens d'âme. Je pense que voilà, beaucoup de fans de certains artistes font partie de la tribu d'âme de l'artiste et que l'artiste a fait le choix peut-être dans cette vie d'être le porte-drapeau, d'être l'étendard en fait des valeurs de cette tribu-là, de ce groupe-là en fait. Voilà. C'est pour ça, méfiez-vous, parce qu'à l'envers, il y a des artistes qui sont très diaboliques, il y a des artistes qui font la promotion de violences, de choses qui sont pas très sécurisées. Et voilà, vous voyez en fait aux fans de cet artiste-là que c'est un artiste qui est mauvais, quoi. Donc voilà, ça marche dans tous les sens possibles. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cet épisode parce que c'est vraiment, je trouve, dans tous les archétypes de relations, celui qui me ressemble le plus. Voilà, j'ai une maison 4 en Verseau, j'ai pas forcément eu un rapport familial qui était très sain et fonctionnel, mais j'ai toujours eu une famille sur Internet, c'est très étrange, hein. Sur Internet, sur des réseaux, etc., dans des groupes, dans des communautés, même si j'ai cette vierge en Chiron vierge en maison 11 qui me fait douter et qui fait que je me sens mal en fait dans ces communautés. Quand je regarde ma vie et que je prends du recul, je me rends compte quand même que j'ai été vachement accepté. dans des communautés qui étaient très différentes de moi, ce que je suis et ce que je représente. Voilà, donc c'est une bénédiction et il faut voir les choses comme ça, quoi. C'est un archétype qui permet vraiment de se trouver, je trouve, une vraie famille. Voilà, je ne suis pas en train de dénigrer ma propre famille, hein, mais vous verrez avec le temps et l'âge, et je pense que les personnes, les doyens un peu de la communauté, les plus âgés, ça résonne avec vous. Voilà, parfois les liens familiaux sont mis à rude épreuve, parfois on peut être trahi par sa propre famille, parfois de la même manière que les liens du mariage s'estompent avec le temps et qui sont de plus en plus cordiaux, ben, parfois c'est avec votre propre famille en fait. Hein, ou alors la vie vous cabosse tellement que vous devez faire des choix et que ces choix n'avantagent pas forcément toujours votre famille, mais que vous devez faire ces choix-là. Enfin, moi, je vous parle français, en fait, des vraies choses de la vraie vie, quoi. Pas un truc hyper imagé, complètement sublimé de la réalité, quoi. Enfin bref, j'ai encore d'autres choses à enregistrer, donc je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusque-là et franchement, j'attends avec impatience vos déclarations d'amour dans les commentaires pour me dire « Oui, c'est vrai, Chris, je fais partie de ta tribu d'âme. » Bref, je vous embrasse, bisous.